Bonjour à tous. Si vous aimez la société de minuit et que vous voulez m'aider à pouvoir continuer à sortir des épisodes, sachez qu'en plus des étoiles et des commentaires qui aident beaucoup le podcast à se faire connaître, vous pouvez maintenant aussi m'aider financièrement sur Patreon, à hauteur de vos moyens. Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si ça vous intéresse, je vous explique tout dans une vidéo sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup et bonne écoute.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
La sucrerie podcast. On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus. Mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort. Car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites.
Eivor grandit dans une famille très religieuse, voulant lui inculquer des croyances qui ne lui correspondent pas. En cherchant dans les différentes mythologies, elle va suivre son propre chemin et s'ouvrir à un monde dans lequel elle se sent bien, mais qu'elle n'arrive pas toujours à maîtriser. Dans cet épisode, j'ai choisi de laisser certaines de mes questions pour une meilleure compréhension de l'histoire. Si pour Eivor, certaines choses semblent évidentes, elles ne le sont pas forcément pour tout le monde. Alors une fois que vous aurez écouté cet épisode, n'hésitez pas à venir nous poser des questions sur nos pages Instagram respectives. Cette histoire s'intitule... Le prêtre malheureux.
Bonjour, je m'appelle Eivor, j'ai 21 ans. J'ai grandi dans une famille... mes parents sont portugais, immigrés et extrêmement catholiques. J'ai été éduquée d'aller tous les dimanches à la messe. J'ai été baptisée, communiée. Sauf que à l'adolescence, en fait, j'ai eu tout un espèce de dégoût de ça. Vraiment, la religion, tout ce qui était croyance, c'était vraiment très très loin de moi. Je voulais pas en entendre parler. Enfin, en fait, vu que ça m'avait fait du mal en soi, j'avais un traumatisme, en fait. Et du coup, je rationalisais vraiment beaucoup de choses. En fait, en soi, j'ai jamais été totalement fermée à tout ce qui était « surnaturel », entre guillemets. Parce que, en fait, c'était pas, entre guillemets, de l'ordre des religion principale en fait qu'on connaît. Et c'est des choses qui sont plus de l'ordre de des anciennes croyances, des mythologies et tout ça. Ça m'avait toujours intéressé, mais par contre la religion c'était non. Depuis que j'étais enfant en fait, mes parents et du coup à travers mes parents la religion, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, au Portugal les années 60-70, c'est vraiment, même encore maintenant c'est extrêmement catholique, et ils ont été éduqués dans ce truc de tu dois être comme ça, tu dois pas être comme ça, et en fait j'ai toujours eu le truc de on essaye de me modeler à l'image qu'ils veulent avoir de leur enfant en fait, c'est toujours, on a essayé de me changer, de changer mes idées, et dès que je disais des trucs que je pensais, je me faisais engueuler. Ce truc de on attend ça de toi, tu dois être comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut être, et du coup ça m'a, j'ai vraiment pas aimé ce truc là vraiment, tous les trucs de tu dois être comme ça, tu dois pas être comme ça, ça me saoule, juste parce que tout le monde est différent et on a tous le droit d'exister comme on est. Depuis que je suis enfant, en fait, j'ai fait face à des expériences pas très rationnelles et pas très explicables. Ça a commencé quand j'étais enfant, et je me suis rendu compte que beaucoup plus tard que c'était des choses qui n'étaient pas de l'imagination d'enfant ou d'autres choses comme ça. Par exemple, la première chose que je me souviens, c'est quand j'étais chez mes parents, dans ma chambre, il y avait la porte de ma chambre en fait qui était en bois, et il y avait une bande de verre au milieu, enfin c'était du verre flouté. Et je me souviens que quand j'étais enfant et jusqu'à mes 16-17 ans, en fait, je dormais toujours dos à la porte, parce que quand je me tournais vers la porte, je voyais dans le verre en fait des ombres qui se dessinaient, des choses qui passaient, et quand j'étais enfant, ça me faisait vraiment très peur. Du coup, j'ai appris à jamais dormir face à cette porte-là pour pas voir ces choses-là. Une autre fois, quand j'avais peut-être 15 ans, je suis rentrée du lycée comme d'habitude, comme tous les soirs, mes parents étaient pas là. Du coup je rentre, je referme la porte d'entrée derrière moi, je vais faire ma vie dans ma chambre tranquillement, je vais faire mes devoirs, et d'un coup en fait j'entends le chien de mes parents qui est en train d'aboyer dehors, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Du coup je me suis levée pour aller voir, et en fait la porte d'entrée elle était grande ouverte. Et du coup, le chien était sorti et allait aboyer sur les gens qui passaient dans la rue. Et j'ai rationalisé en me disant j'ai dû mal fermer la porte, ou il y a dû avoir un coup de vent, ou je sais pas, la porte elle a dû s'ouvrir. Sauf qu'en fait, dans ma tête, je me souvenais très bien en fait d'avoir fermé la porte à clé. Et en fait, jusqu'à maintenant, j'avais pas trop relevé de ça. Je me suis dit c'est pas grave, c'est un petit truc, une erreur d'inattention, je sais pas. C'est les seules petites choses qui m'est arrivée quand j'étais vraiment enfant, jusqu'à que je prenne mon premier appartement, du coup. Pour mes études, j'étais en prépa, en design, et j'ai pas du tout tenu le coup face à la charge de travail. Ce qui fait que du coup, en fait, ma santé mentale, elle a dégringolé. J'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out, et ensuite, il y a eu les premiers confinements à cause du Covid qui sont arrivés. Et j'étais enfermée chez moi, j'avais arrêté mes études. Enfin, j'étais vraiment mal, mais comme je l'avais jamais été avant. Et en fait, à cette époque-là, je traînais avec des personnes qui étaient vraiment des mauvaises personnes en soi, des mauvaises fréquentations. C'était vraiment pas fun comme période. Et en fait, mon état mental s'est aggravé. J'étais vraiment pas bien. Et en fait, il y a un soir, j'étais vraiment au bord du gouffre, du désespoir total. J'étais au fond du trou, j'étais vraiment dans le mal total. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis mis à prier. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti, mais j'étais en mode, je vais prier. Et j'ai regardé le ciel comme ça, et je me suis dit, s'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose qui m'entend, qui peut m'aider, envoyez-moi des corbeaux. Et je sais pas pourquoi, je sais pas d'où c'est sorti comme ça, c'était envoyez-moi des corbeaux. Et du coup, après, ça passe. Quelques jours plus tard, à un moment, j'avais fait... une nuit blanche, je suis à 8h du matin, je suis allée dans mon jardin. Je me suis posée parce qu'il faisait un peu beau. Ça faisait peut-être une demi-heure que j'étais là. Et d'un coup, je vois une dizaine de corbeaux qui arrivent et qui se posent tous sur l'arbre. Ben, en fait, j'étais en dessous d'un arbre et ils se posent tous sur l'arbre au-dessus de moi. Et ils me fixent pendant 10 minutes sans bouger. Et d'un coup, ils partent tous en même temps. Et là, en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu le déclic de ma vie. Parce que, en fait, à l'époque, vu que ben, la dépression, tous les trucs-là, fait que j'étais accro aux médicaments, je buvais beaucoup d'alcool en plus. Et en fait, à partir de ce moment-là, du jour au lendemain, j'ai pris tous mes médocs, j'ai pris toutes mes bouteilles, j'ai tout balancé à la poubelle. Et je me suis dit, là, maintenant, ça va changer. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses. J'ai commencé à méditer, j'ai commencé à m'intéresser à ressentir les énergies de la nature, surtout enfin, de la terre, les arbres, les plantes, plein de trucs comme ça. Et je m'intéressais du coup de plus en plus aux mythologies. Et j'ai un peu épluché les trucs, mythologie grecque, je connaissais, ça m'attire pas tant que ça. J'avais regardé la mythologie égyptienne, j'avais regardé la mythologie japonaise. Et là, j'arrive sur la mythologie nordique. Je commence à lire des trucs et à regarder des vidéos. Et en fait, c'était très bizarre comme sentiment parce que j'en avais quasi jamais entendu parler à part les trucs des Avengers, Thor, Odin. Enfin, je connaissais les noms des dieux, mais pas plus que ça. Et en fait, à ce moment-là, je lisais des trucs, je lisais les sagas, c'est les histoires mythologiques. En fait, c'était très bizarre parce que j'avais jamais lu ça. Mais en même temps, j'avais l'impression de déjà connaître ce que je lisais. En fait, je pense que, enfin, dans ma tête, c'était surtout un sentiment de, c'est un truc qui était enfoui, extrêmement profond, et que plus je lisais, plus ça se réveillait. Et je me disais, mais c'est trop bizarre. Et du coup, j'ai commencé à me documenter de plus en plus. Et en fait, ouais, j'avais déjà l'impression de tout connaître, et c'était vraiment un sentiment très bizarre. En fait, ça, c'est vraiment le moment et l'époque de la période de ma vie où il y a tout qui s'est mis en marche et qui s'est réveillé. Ensuite, du coup, ben, je continue, je fais mes méditations, je commence à prier des divinités qui m'intéressaient, entre guillemets, enfin, qui me correspondaient et qui m'attiraient un peu plus. Un soir, j'étais juste assise dans mon salon en train de regarder la télé tranquille, et en fait, dans le coin de mon œil, enfin, dans ma vision périphérique, je vois une petite source de lumière, enfin, comme une petite paillette en fait. Une petite boule lumineuse qui bouge très vite et qui fait des allers-retours. Et en fait, dès que je tourne la tête pour regarder, elle y est plus. Et là, ça fait ça pendant 10 minutes. Je suis là, je vois le truc, je tourne la tête, il est pas là. Et bon, du coup, à ce moment-là, je me dis, bon, allez, c'est parti, c'est mon heure. On va commencer. J'ai pris mon pendule, je suis allée dans le coin et j'ai commencé à poser des questions. J'ai commencé à demander qu'est-ce que c'est, et là au fur et à mesure des questions, du coup je découvre que c'est une personne, enfin l'âme d'une personne du coup, qui est en fait dans un espèce d'entre-deux, coincé entre les deux mondes, qui arrive pas à sortir de là. Et au fur et à mesure des questions, je demande si c'est quelqu'un que je connais. Du coup, oui, c'était une personne que j'ai connue depuis que j'étais enfant, une dame qui était décédée un ou deux mois avant. Et là, d'un coup, en fait, je me souviens d'une personne âgée chez qui ma mère allait faire du ménage, du coup, pendant des années. Et à chaque fois, elle m'emmenait avec elle. Et c'est une dame que j'aimais beaucoup. Et ma mère m'avait appris son décès un ou deux mois avant. Et là, en fait, au moment où je dis son nom, il y a un sentiment, mais un truc qui me traverse. Et en fait, je m'effondre en larmes par terre. Mais c'était incontrôlable. En fait, ça m'a mis dans un état de tristesse. Enfin, en fait, je sais pas si c'était de la tristesse, j'arrive même pas à décrire. Et après, du coup, je repose des questions, et en fait, elle me dit que elle est coincée, et que elle a été voir plein de gens, et que je suis la seule personne qui a ressenti sa présence, en fait, et qui peut l'aider. Et j'étais là, bon, ben, ok.
Et quand elle te dit tout ça, comment est-ce que tu l'entends ?
C'est par le pendule, en fait, je fais par déduction. J'ai des sensations physiques qui me font sentir les choses. Je vois pas des masses, j'entends pas du tout, mais c'est les sensations. Du coup, vraiment, mon premier réflexe, c'était de m'allumer une bougie, d'aller prier et d'être là en mode, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et du coup, la divinité que je priais à ce moment-là, c'était, enfin toujours d'ailleurs, c'est Freya. Du coup, c'est une déesse de la mythologie nordique. Et en fait, faut savoir que Freya, enfin dans la mythologie, lors des combats, des guerres, en fait, quand il y a des morts, il y a Odin qui prend la moitié des soldats qui sont morts au front et qui les emmène dans son palais, ben au Valhalla, comme on connaît tous. Et Freya, en fait, prend une partie des autres et les emmène dans son palais, elle. Et en fait, en général, Freya, c'est les personnes qui sont pas... C'est pas les personnes qui sont décédées en attaquant, c'est les personnes qui sont décédées en protégeant leur famille, en défendant, en fait, leur bien contre des envahisseurs. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais voir, c'est la seule chose que je peux faire. Du coup, j'étais dans un état pas possible. J'étais là, Freya, s'il te plaît, est-ce que tu peux accueillir madame? Parce que je sais pas quoi faire, je sais pas comment on fait. Et en fait, au bout d'un moment... Bah en fait je l'ai senti partir. Je sais pas comment c'est comme s'il y avait une pression ou comme si en fait l'atmosphère elle s'allégeait vraiment beaucoup d'un coup. Il y avait un sentiment paisible et je l'ai senti partir. Et là du coup comme d'hab encore une fois crise de larmes. J'étais pas bien, tout le bordel.
Et est-ce que à ce moment-là pour toi c'est une preuve que ce genre de choses existe? En fait qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Bah en soi en fait j'avais déjà concilié le fait que ce genre de choses existait, enfin j'ai jamais été fermée, en fait j'ai plus été fermée au trucs religieux, vraiment Jésus qui marche sur l'eau, tout ça, j'ai plus été fermée à ça parce que bah on m'a essayé de m'endoctriner avec entre guillemets que par contre des anciennes croyances et des choses comme ça, j'y ai toujours un peu cru, mais après bon je me suis dit je l'ai pas senti, mais j'étais pas du tout en mode la science elle peut pas expliquer, du coup ça existe pas. J'ai jamais été dans cette optique-là parce que je me suis toujours dit que les humains cherchaient trop à tout prouver alors que des fois, il n'y a pas besoin. Et il faut juste concilier le fait que les choses existent sans qu'on puisse les expliquer et juste vivre avec, en fait. Mais bon, ça a l'air trop compliqué pour la plupart des gens. Après, bon, du coup, j'ai eu la deuxième grosse expérience, enfin, une des plus grosses expériences. C'était pendant la deuxième partie du premier confinement, c'était vers le mois d'avril-mai, il me semble, celle-là. Et l'autre, c'était vraiment au début, c'était enfin peut-être un mois avant. Du coup, en fait, j'ai été confinée avec deux amies, dont une amie à moi qui, en fait, elle m'a un peu initiée dans le milieu, on va dire, entre guillemets. Elle est déjà de base, elle méditait énormément. Et du coup, elle m'a appris comment méditer, tout ça. Et il y avait une autre amie à moi qui, elle aussi, qui est pas mal dans ces choses-là. Du coup, à un moment, confinement, on s'ennuie, on se dit « Venez, on va dans la cave de l'immeuble ». On savait comment se protéger, au niveau spirituel, on s'est dit on se protège, on fait du Ouija. Et du coup, on a fait une planche de Ouija vite fait, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai fait sur du carton avec de la peinture. Et on est allé du coup dans la cave, on a trouvé une petite table basse dans la cave, en plein milieu d'une pièce. On s'est dit c'est l'endroit propice. On a posé notre truc, on a posé nos pierres, on a posé nos bougies, on a allumé notre encens. Et du coup, on a commencé, et en fait, il n'y avait vraiment pas une seule fois où la goutte, elle bougeait pas. Vraiment, c'était... Il n'y a jamais eu un silence radio avec la planche.
Est-ce que tu peux juste être plus précise quand tu nous dis la goutte, elle était toujours en mouvement?
En fait, dès qu'on essayait de communiquer avec la planche, en fait, dès qu'on posait des questions, il n'y avait jamais... il y avait toujours quelque chose pour nous répondre, en fait. Du coup, ça faisait bouger la goutte. On avait tout le temps des réponses. Dès la première question qu'on a posée...
Donc vous êtes arrivé en bas et vous avez directement posé les questions.
En fait, on s'est préparé. De base, on s'est protégé déjà. On a fait tout le truc avec les bougies et tout pour pas... Parce que ça, après, c'est une porte ouverte à se faire attaquer partout et n'importe quoi et qu'il y a un truc qui s'accroche à nous, donc on n'avait pas trop envie. Du coup, on s'est bien protégé, bougies, encens, pierres, protection, tout ça. Et du coup, à un moment, on était dans une... en gros, pour schématiser, on était dans la pièce tout en haut à gauche. Et en fait, on avait mis des pierres tout autour et il y avait en fait un pendentif en quartz rose qui était à mon ami, qui était très rose. Et en fait, la monture autour, elle était dorée. Et en fait, à un moment, la goutte, en fait, elle bouge et elle pousse le quartz et elle le fait tomber à mes pieds. Vraiment, je l'ai senti tomber à mes pieds, il était là. Et du coup, 5 minutes plus tard, on ferme le truc, c'est fini. Et là, je regarde et il n'y a plus de quartz. Du coup, on a essayé de refouiller toute la cave avec mes potes et le pendentif, il avait disparu, mais total. Ça, du coup, c'était pendant la deuxième partie du confinement. Et là, en plein été, il me semble que c'était au mois de juillet ou au mois d'août, j'étais dans le jardin et d'un coup, il y a un truc qui me revient et qui me dit le pendentif en quartz rose de ma pote dans la cave. Et là, je les regarde, elles étaient là, je leur ai dit bon, on va dans la cave tout de suite, il faut qu'on aille chercher le truc, je sens qu'il faut qu'on aille le chercher. Et du coup, cette fois-ci, j'y vais avec mon pendule. Et le pendule, il m'amène vraiment à la pièce qui, du coup, est en contrebas, totalement à l'opposé de où on a perdu, enfin, de où le pendentif avait disparu. Du coup, il me fait tourner en rond là-dedans, dans la pièce, pendant 20 minutes. Et je regardais bien avec mon flash partout pour voir s'il était et tout. Et il n'était pas. Et là, d'un coup, je regarde juste à mes pieds et il était vraiment... Enfin, comme s'il avait émergé de la terre et qu'il était venu entre mes deux pieds, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je le prends et je vois qu'il a complètement changé de couleur. Il était presque devenu opaque, blanc, un tout petit peu rosé, mais de base, il était vraiment très rose. Et en fait, la monture qui était dorée autour, elle était, enfin, du coup, elle était juste argentée, elle était plus dorée du tout. Et là, du coup, ben, je le redonne à mon ami, j'ai dit, bon, j'ai retrouvé ton truc et tout. Et en fait, bizarrement, il avait vraiment, je ressentais une bonne énergie de...
Oui, comme si ça s'était rempli de bonnes vibrations et que c'était devenu une sorte de porte-bonheur.
Ouais. Un an plus tard, il y a une amie à moi qui vient manger à la maison et passer la soirée chez moi. Et en fait, elle voit énormément de choses que les autres, enfin que la plupart des gens ne voient pas, sauf que ça l'angoisse très fort. Et en fait, ça lui est tombé dessus et elle a...
En gros, il y a des choses qui se présentent à elle sans qu'elle réussisse à le contrôler ou même le vouloir.
C'est ça, en fait, ça l'angoisse. Elle voit des choses, mais ça l'angoisse énormément. Et du coup, ouais, ce jour-là, on était tranquillement sur mon canapé. Canapé, du coup, que quand on était assis dessus, ça donnait sur ma cuisine qui était en longueur et sur la porte de ma salle de bain qui était juste après ma cuisine. Du coup, la porte de la salle de bain était ouverte. Du coup, on vous voit. En fait, ça donnait directement sur ma cabine de douche depuis, du point de vue où on était sur le canapé. Faut savoir que juste sur la droite de ma porte, contre le mur, il y a un sèche-serviette. Et j'avais vraiment juste, il y a tout le temps des serviettes dessus. Et à un moment, en fait, je regarde et je vois en fait une serviette qui passe devant la porte, en fait, qui se balance devant la porte. Et là, je regarde ma pote, elle me regarde, elle fait « T'as vu ?» Je fais « Oui ». Et à un moment, bon, du coup, on passe outre, on continue notre soirée tranquillement, on parle et tout. Et là, d'un coup, elle me dit « Il y a un mec dans ta douche ». Je me dis « Comment ça, il y a un mec dans ma douche ?» Elle m'a dit « Il y a un mec, il est debout dans ta douche et il a l'air de vouloir parler. » Et moi, du coup, je vais pour fermer la porte de ma salle de bain. Et elle me dit « Non, mais il est pas content, là. Il est pas content. » Et il était là, il commençait à parler. Je me souviens plus exactement ce qu'il disait. Mais du coup, mon ami entendait vraiment ce qu'il disait. Moi, j'entendais pas. Mais par contre, vu qu'elle a commencé à me dire qu'il était dans la douche, en fait, quand je me concentrais un peu plus en regardant la douche, je le voyais. Un peu. Enfin, très vaguement, mais je voyais à quoi il ressemblait. Et du coup, je lui ai juste dit je t'embête pas, tu restes là, mais juste m'embête pas, quoi. Enfin, laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé. Laisse-moi tranquille. Il fait ouais, pas de soucis, machin. J'étais en mode ok. Et vient le moment où mon amie va rentrer chez elle, en fait. Et à partir du moment où elle est partie, je vois plus, je sens plus la présence de Denis dans la douche. Parce qu'il s'appelle Denis. Du coup, après, il nous a expliqué après qu'il s'appelait Denis. Une heure après, même pas, il y a mon ami qui m'appelle et qui me dit « Il est chez moi, il m'a suivi jusqu'à chez moi, j'ai peur, il est là, il est chez moi. » Et en fait, en gros, après, elle m'a expliqué qu'au moment où elle allait, en fait, quand elle allait dormir, au moment où elle allait s'endormir, elle m'a dit « Il m'a mis un doigt dans l'oreille. » Et du coup, ça l'a fait sursauter, ça l'a fait, ça l'a fait hurler parce qu'elle a eu, elle a eu super peur. Et en fait, il squattait chez elle un peu. Moi, je me suis dit, ça commence à être compliqué parce que, elle allait en études, elle avait des partiels, elle devait avoir des examens à ce moment-là et tout. Elle était étudiante, c'était compliqué. Si elle pouvait pas réviser, elle pouvait pas travailler correctement. Et à un moment, je reparle à mon amie, elle me dit, Bon, du coup, j'ai parlé avec lui. En gros, il s'appelle Denis, c'est un prof d'histoire. Et en fait, il est coincé ici, il reste là et il nous embête, entre guillemets, parce que quand il était vivant, de son vivant, il avait trompé sa femme. Sa femme lui en a voulu, du coup, ils ont divorcé tout de suite. Et elle lui a plus jamais reparlé depuis, sauf que, entre-temps, en fait, sa femme, elle est décédée. Et lui, en fait, il aimait toujours sa femme. Et il avait pas envie de passer de l'autre côté, parce que il avait pas envie de se faire rejeter par sa femme dans l'au-delà, on va dire. Du coup, il était juste là, et il restait là, et il nous embêtait. Et en fait, surtout, il testait mon amie, parce que vu que, en fait, elle avait peur de ce genre de choses. En fait, la peur, ça attire beaucoup de choses. Et en fait, il voulait lui apprendre une leçon de va falloir que tu t'habitues, ma cocotte, parce que plus t'as peur, plus je vais venir. Finalement, il n'était pas méchant, en fait. Il voulait juste lui apprendre quelque chose et pour que elle puisse évoluer. Et à un moment, elle me dit « Bon, Denis, il est toujours là, j'en ai marre, il me saoule. » Du coup, on s'est dit « Allez, on va prendre une après-midi. Je vais me pointer là-bas, je vais prendre tout ce qu'il faut. » Et il y a un ami à nous aussi qui est venu, du coup. Moi, je me mets avec mes bougies, mon encens, tout le bordel. Et du coup, mon amie s'allonge sur le lit, elle se met en état méditatif. Et notre autre amie se met en fait au-dessus de sa tête pour essayer de d'enlever les énergies négatives, les choses négatives dans son corps. C'était long quand même parce que, en fait, quand je fais face à ce genre de situation, j'arrive à, comment dire, à ouvrir un portail comme un espèce de pont, en fait, entre les mondes et, du coup, pour faire passer les âmes qui sont coincées ici. Et du coup, c'est compliqué, c'est fatigant. Et en fait, le Denis, il voulait pas y aller. Et au bout d'un moment, j'ai dû le raisonner pendant une demi-heure, être là en mode « Mais Denis, tu peux pas rester là, tu seras mieux là-bas, t'inquiète pas, dans tous les cas, ta femme, elle va bien te pardonner, de toute façon, tu pourras t'expliquer avec elle parce que t'as pas eu le temps de le faire. » J'ai vraiment... j'ai discuté avec lui pendant 30 minutes et au bout d'un moment, il s'est dit « Bon, d'accord. » Et du coup, il est passé et après, plus rien. Du coup, ça s'était fait, première chose. Et en fait, en me rendant compte qu'il y avait Denis dans ma salle de bain, je me suis rendu compte après qu'il y avait trois autres personnes dans ma salle de bain que j'avais pas vues depuis là. Du coup, il y avait une vieille dame en pantoufles, chemise de nuit, peignoir. Il y avait un vieux monsieur en costume et il y avait un jeune homme de la vingtaine, mais qui était habillé vraiment en mode Peaky Blinders les années début 1900, quoi. Et du coup, je me dis, on va pratiquer maintenant, parce que maintenant qu'il y en a un qui est parti, autant que les autres, ils s'en aillent aussi, parce que la vieille dame, ça se voyait qu'elle en avait marre d'être là, elle était saoulée. Du coup, pareil, je suis là, j'ouvre mon petit portail dans la porte de ma salle de bain. La petite dame, elle passe directement, elle a pas eu d'hésitation parce que ça se voyait qu'elle en avait marre d'être là et que ça devait faire un bon moment qu'elle était là. Le jeune homme pareil et le vieux monsieur, il m'a fait rire un peu parce que il est vraiment il paniquait un petit peu avant de se lancer, avant de passer. Il a vraiment juste regardé au ciel, il a fait un signe de croix et il est parti. Et vraiment ça m'a fait ce truc là, ça m'a fait un petit, je sais pas, c'était rigolo. Et du coup, voilà, tous ceux-là sont partis. Le truc du portail, c'était vachement instinctif. En fait, c'est juste, je me suis dit, il faut que les gens y passent. En fait, je me visualise un passage entre les deux. Et il faut que les personnes passent par là. Le truc le plus important, en fait, dans les pratiques spirituelles, on va dire, c'est vraiment basé sur la visualisation, en fait. Et du coup, logiquement, le premier truc qui s'est ouvert, c'est un espèce de truc de portail de lumière dans une porte. Et quand je me suis dit, c'est bon, quoi. Parce que, en fait, c'est vraiment de la visualisation et...
En fait, tu t'aides beaucoup de la visualisation.
Ouais, parce que sans la visualisation, je peux pas faire grand-chose, honnêtement. C'est ça qui fait tout. Quelques mois après, on a été en vacances avec la même amie avec qui l'histoire de Denis s'est passée, avec du coup des autres amis à nous du lycée. Il y avait trois garçons et on était quatre filles, du coup mon amie, moi, il y avait ma meilleure amie et une autre amie à nous qui était là aussi. On va dans le sud, dans un petit village qui s'appelle Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Et du coup, on a une petite maison, on a une piscine, c'est cool. C'est vachement vieux comme village. Et à un moment, en fait, on s'est dit le soir, bon, bah, on va sortir dans le village, on n'y a pas été encore. Comme ça, on va visiter. Et en fait, dans ce village-là, il y a une abbaye, une très très vieille abbaye, avec le tombeau d'une sainte à l'intérieur. Et du coup, on se dit, bon, bah, l'abbaye, ça a l'air sympa, on peut aller regarder et tout. Et en fait, j'aime bien regarder, aller voir des lieux très anciens qui ont beaucoup d'histoire, des vieilles bâtisses, parce qu'en fait, j'aime bien sentir les énergies qu'il y a à l'intérieur et potentiellement avoir une idée de ce qui a pu se passer comme chose à l'intérieur aussi. Du coup, je me dis, ouais, il y a une vieille abbaye qui date du Moyen-Âge, bon, on va y aller. Devant l'abbaye, en fait, l'entrée, il y a une grosse porte principale. Et en fait, sur chaque côté de la grosse porte, il y a deux plus petites portes. Enfin, c'est des portes secondaires, du coup. Et en fait, il y avait la première porte de gauche, la grosse porte qui était allumée. En fait, il y avait des spots lumineux par terre qui étaient allumés. Du coup, elles étaient illuminées. Et il y avait la plus petite porte de droite qui était dans l'ombre. En fait, la lumière fonctionnait plus et du coup, elle n'était pas illuminée du tout. Du coup, avec mon ami, on va vers là-bas. Et du coup, je monte la toute petite marche pour aller en dessous du porche de cette porte. Déjà, à partir du moment où je pose un pied sur cette marche, j'ai une douleur au genou qui me prend. Je me dis, bon, c'est bon. Là, il y a des choses, c'est chargé. Ça, c'est en général le signal de mon corps. C'est soit j'ai mal au genou, soit j'ai l'estomac noué ou des trucs comme ça. Du coup, là, j'ai mal au genou. Je me dis, bon, c'est chargé. Effectivement, il doit y avoir du monde. Et je commence à avoir chaud aussi. Et je m'avance vers la porte. Et mon amie, du coup, derrière, elle est derrière moi, elle est pas montée ni rien. Et elle me regarde, elle me dit, il y a un mec derrière la porte qui te pointe du doigt. Et en fait, à partir du moment où elle me dit, parce qu'en fait, vu que j'ai plus tendance à sentir les choses qu'à les voir, vu qu'elle, elle les voit, et quand elle me le dit, en fait, j'arrive un peu plus à visualiser. Du coup, je vois vraiment un prêtre très vieux, qui est vraiment juste derrière la porte et qui me pointe du doigt, je sais pas pourquoi. Du coup, je me recule. Et en fait, mon amie, vu qu'elle voyait beaucoup de choses, mais qu'elle n'était pas du tout expérimentée, en fait, elle était trop curieuse, en fait, à ce moment. Enfin, ces moments-là, elle voulait voir et elle voulait tout voir, en fait. Du coup, en fait, on commence à tourner un peu autour de la bâtisse. C'est très bizarre comme truc aussi, mais en fait, nous, on est autour, sauf qu'on a, en fait, j'ai un espèce de visu en parallèle de l'intérieur de l'église, avec du coup le prêtre qui fait des espèces de tours de garde, en fait. Il fait vraiment des rondes dans son église, et en fait, il marche pas vraiment, il glisse sur le sol tout droit. Et en fait, si à un moment on s'approche un peu trop d'un mur, même s'il est à l'autre bout de l'église, en fait, il se téléporte et il apparaît directement de l'autre côté, en fait, devant nous tout le temps. Enfin, vraiment, il était accroché à sa bâtisse et il voulait la protéger, il voulait pas qu'on s'approche. Du coup, moi, je me recule un peu, je me dis, bon, il est pas très content, on va éviter de l'énerver parce que ça sert à rien dans tous les cas. Et mon amie, un moment, elle voit un espèce de renfoncement, en fait, dans le mur d'un côté de l'église. Elle met sa tête dedans et d'un coup, elle part en courant. Elle vient vers moi et moi, je la regarde, je fais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, il m'a gueulé dessus, j'ai peur, faut qu'on s'en aille. Il m'a gueulé dessus. Et du coup, j'ai dit, bon, t'inquiète pas, calme-toi, ça va aller, tranquille. On est parti, du coup, on voulait aller manger une glace ou je sais plus. Et là, à partir de ce moment-là, le mec a commencé à nous suivre, en fait. Du coup, il est sorti de son abbaye et il a commencé à nous suivre. En fait, il croyait qu'il était discret, mais bon, il laissait toujours sa tête ou quoi dépasser à moitié d'un mur, d'une maison derrière nous pour nous observer de loin et tout. Et du coup, là, moi, ça me fait pas plus peur que ça, on va dire. Genre, juste il me suit, bon, au bout d'un moment, il va arrêter. Mais mon amie, elle a commencé à avoir peur, vraiment. Elle sentait du coup la présence qui était derrière en train de nous observer, de nous suivre. J'ai toujours des pierres de protection sur moi, j'ai toujours mes pierres avec moi. Du coup, genre, je farfouille dans mon sac, je trouve une pierre, je lui donne, je lui fais « Tiens, tu prends ça ?» Et je lui fais, j'essaie de lui faire une petite rune quelque part pour essayer de la protéger. Et en gros, je lui dis de faire des trucs de visualisation, je lui dis « Bon, ok, tu t'imagines un bouclier lumineux autour de toi ?» Une bulle dorée, argentée, enfin un truc lumineux, tu t'imagines ça autour de toi et t'essaies de l'étendre au maximum pour que ça, peut-être que ça le repousse en fait. Et à un moment, du coup, on se dit bon, bah, on va rentrer à la maison. Quand on marche, du coup, elle, en parallèle, du coup, elle essaie de discuter un peu avec, elle le voit. Et en gros, il lui explique que tout le monde le détestait quand il était vivant. Et que du coup, il avait tellement la haine qu'il s'est pendu dans son abbaye. Et qu'en fait, depuis, la seule chose qui l'a animé entre guillemets toute sa vie, c'était vraiment de prendre soin de cette bâtisse-là, d'être présent, de surveiller, et de, en fait, il vivait pour son abbaye, quoi. À un moment, mon amie, elle essaye de lui envoyer un peu d'amour, énergétiquement parlant, je sais pas comment dire. Et en fait, lui, vraiment, il s'écarte et il fait vraiment une tête de dégoût. Il était là en mode « Ah, non !» Parce qu'il était... vu qu'en fait, il a eu une vie triste, en fait, parce que personne l'aimait et tout, il était vraiment très, très aigri, quoi. Et mon ami et moi on marche pour rentrer, on est encore sur le chemin. Elle se revisualise devant l'église avec le prêtre qui est devant l'église et en fait qui était vachement plus menaçant qu'avant. Et en fait elle se visualise en fait en train de le pousser extrêmement fort. En fait il est projeté sur totalement en arrière. Et en fait au moment où il va s'écraser en fait contre les portes de l'église, les portes elles s'ouvrent, elles se referment directement derrière lui. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit ouais, j'ai visualisé ça, est-ce que c'est bien et tout. Je suis en mode, ça a l'air, en soi, ça l'a remis un peu à sa place, où il était de base, mais je sais pas. Et là, on arrive à la maison. Je lui ai dit, par contre, là, dès qu'on arrive, on se met dans une chambre, on allume un bâton d'encens et on fait un truc parce qu'il faut absolument pas que ce truc il reste accroché à toi parce que sinon ça va être une catastrophe. Du coup, je vais essayer d'enlever les mauvais trucs qu'il a pu mettre. Et là, du coup, j'embarque mes deux autres amis qui connaissent rien du tout de ça vraiment, mais que dalle. Je les embarque avec moi, je leur dis bon bah il y en a une qui tient une tasse et l'autre qui tient le bâton d'encens.
Attends, mais elles étaient où ces amies ?
Elles étaient avec nous. En fait, ils étaient tous avec nous, on était tous ensemble dehors en fait.
Ah OK.
Et nous ils nous voyaient en train de faire notre truc, en train de paniquer un peu, c'était vraiment en public, il y avait plein de gens dans la rue et tout et nous on était là en train de paniquer, il y avait vraiment plein de monde dans la rue et tout.
Plus vos deux amies sceptiques.
Enfin non, elles sont pas sceptiques, c'est juste qu'elles y connaissent rien du tout, elles ont jamais eu faire face à ça. C'était les garçons qui étaient sceptiques et eux par contre ils nous ont voulu après. Et du coup ouais, on va dans la chambre et je dis à ma meilleure amie, tiens tu prends le bâton d'encens, tu l'allumes, l'autre tu tiens la tasse pour les cendres là. Et du coup j'allonge mon amie et je me dis bon vas-y mets-toi en état méditatif, respire bien et tout. Et en fait, j'avais déjà fait un peu... entre guillemets des soins, je sais pas si c'est du magnétisme mais des soins un peu énergétiques juste refaire circuler, voir où il y a des blocages énergétiques dans le corps des gens. Enfin j'essaie de le faire, j'en ai déjà fait un peu sur mes amis quand ils avaient mal au crâne ou qu'ils avaient des trucs qui étaient coincés et du coup je me suis mis du coup avec les mains au-dessus de mon ami et en fait le truc que je fais c'est que j'essaie d'être en fait, en gros, les mauvaises énergies qu'il y a dans le corps des gens, je les visualise sous comme une espèce de fumée noire. Et en fait, du coup, avec mes mains, j'aspire ces énergies dans mes mains et je les relâche, en fait. Enfin, je les relâche dans l'air, en fait, pour pas que moi je les aspire et que juste elles restent en moi, quoi. Du coup, j'essaie de faire ça, j'essaie de faire plein de trucs. Et en fait, il y a rien qui y fait. Je sais pas pourquoi, j'arrive à rien du tout. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, là, j'arrive à rien. Ma pote est potentiellement en danger avec ce prêtre-là.
Evor me raconte que, pour elle, nous avons tous un esprit guide. Elle m'explique que, pour rencontrer le sien, elle s'est plongée dans une méditation guidée qui a tout de suite fonctionné. Elle s'est visualisée escalader une falaise sur laquelle cet esprit l'attendait. Et elle me raconte qu'elle avait l'apparence d'une femme, habillée comme une déesse grecque avec de longs cheveux bouclés. Quand une situation paranormale devient incontrôlable et effrayante, elle peut donc faire appel à cet esprit guide et lui demander de l'aide. Et c'est exactement ce qu'elle va faire à ce moment-là.
Et là, d'un coup, mais en une demi-seconde, j'étais du coup sur la falaise avec, avec ma guide à côté. Et je la regarde, je fais « je sais pas quoi faire, tu peux m'aider ?» Et juste, elle me sourit et elle hoche la tête. Et en fait, là, je sens une espèce de chaleur dans mon corps. Enfin, en fait, j'étais totalement consciente de mon corps, mais j'en avais pas le contrôle en soi et j'avais pas envie d'en avoir le contrôle. Mais en fait, mes bras se sont mis à bouger tout seuls. Et en fait, j'ai fait, je sais plus ce que j'ai fait, du coup, sur mon ami pour que ça fonctionne. Mais en gros, c'est comme si j'étais portée, enfin, comme si mes bras étaient en apesanteur et qu'ils étaient portés et guidés par quelque chose, en fait. Et aussi, en fait, je sentais que j'avais les yeux grands ouverts, mais je voyais rien de mes yeux. Et en fait, ça se passe pendant peut-être 30 secondes, une minute, où j'ai pas le contrôle de mon corps, je sens mon corps qui bouge un peu, je sens que j'ai les yeux ouverts parce que je sens l'air sur mes yeux. Et en fait, d'un coup, ça retombe, et je me réveille, et en fait, là, je me retourne et je vois mes deux amies, du coup, celles qui avaient jamais vu ça de leur vie, elles me regardent et me font « mais ça va ?» Et je suis en mode « oui, ça va ?» Elle fait « mais t'as vraiment bougé d'une manière tellement bizarre ?» T'avais les yeux grands ouverts, blancs, révulsés, et t'as jamais bougé comme ça, tu t'as bougé d'une manière trop bizarre, et on dirait que t'étais pas là, en fait. Et j'étais en mode, ben écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais elles étaient vraiment, elles étaient choquées un peu, et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. On est resté peut-être une heure et demie dans la chambre, et après, à côté, il y avait les garçons qui étaient en train de râler, parce que ils râlaient parce qu'ils disaient « Ouais, vous faites des conneries, vous faites n'importe quoi, ça n'existe pas, vos trucs et tout. » Mais en fait, d'un côté, je pense juste qu'ils avaient trop peur, quoi. Ils étaient en train de se chier dessus, ils avaient peur. Et c'est pour ça qu'ils sont énervés, en fait. Du coup, l'histoire du prêtre s'est finie comme ça. Moi, j'ai toujours eu un truc de me dire, après la mort, bah en fait, il y a ce que chaque personne pense qu'il y a. Enfin, si par exemple, il y a une personne qui pense qu'elle va aller qu'il y a le paradis et l'enfer après la mort, bah, il y aura le paradis et l'enfer. S'il y a une personne qui pense que juste elle va être réincarnée, bah, elle sera réincarnée. S'il y en a une autre qui pense qu'il n'y a rien, bah, il n'y aura rien. Je pense que c'est vraiment propre à chacun, en fait. Bah, après, je sais que l'âme reste un minimum, enfin, l'énergie reste, mais après... quand c'est paradis, enfer, jugement dernier, ou sinon, soit tu vas te réincarner en un animal, ton animal que t'aimes bien, ou en quelqu'un d'autre, ou juste tu vas rester là et tu vas regarder les gens vivre. En fait, ouais, c'est vraiment, je pense que c'est propre à chacun, et je pense que, en fait, on peut choisir, parce que on peut faire plein de choses là-dedans, et je pense qu'on peut choisir, clairement.
Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la société de minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ce podcast est produit en indépendant et donc est entièrement financé par vos dons. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de le soutenir pour qu'il puisse continuer à exister, vous pouvez maintenant le faire sur Patreon à hauteur de vos moyens. Le lien est dans la description. Merci à tous.